Xavier Guilloux, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Guilloux, depuis le début du mois de mai, les catastrophes naturelles se multiplient à l'échelle de la planète. Il y a eu le cyclone vraiment très meurtrier au Myanmar, il y a eu l'éruption volcanique au Chili, un séisme très grave en Chine qui ont fait des millions de victimes, qu'on parle de personnes qui sont mortes ou encore de personnes déplacées. Est-ce que c'est exceptionnel qu'autant de désastres se produisent en si peu de temps?
Non, ce n'est pas exceptionnel. Je dirais que là, il y a une convergence de trois sinistres en même temps. Mais les zones que vous m'avez évoquées sont des zones qui sont bien connues des géophysiciens et notamment des spécialistes en prévention sismique. C'est sur notamment la cordillère des Andes et la zone Inde-Chine que vous avez, cette plaque himalayenne, c'est là où vous avez les plus gros sinistres que l'on connaisse dans notre histoire, enfin je veux dire, et pas forcément récente.
Est-ce que vous voyez, M. Guilloux, dans certaines de ces catastrophes, la part de l'activité humaine? Je pense en particulier au cyclone qui a frappé le Myanmar. Est-ce qu'on peut penser que les changements climatiques sont en cause dans cette catastrophe?
Non, là, je ne crois pas beaucoup à cette thèse. Je crois par contre, si vous voulez, que... Enfin, le constat que moi je fais, c'est qu'on a... La conjonction de surpopulation sur des littoraux ou sur des zones qui sont connues pour être des zones à risque majeur. Et c'est cette surpopulation qu'on n'arrive pas du tout à réguler aujourd'hui, hein, voire des comportements qui sont aberrants en termes d'habitat ou de vie humaine, qui font que l'on a des catastrophes avec des niveaux de victimes qui sont importants. Le delta du Myanmar est une zone qui est connue comme étant une zone inondable. Cette région du monde est une région qui est connue pour ses intensités cycloniques. C'est exactement la même chose que, par exemple, dans les Caraïbes. Si je prends, par exemple, ce qui s'est passé avec Katrina, qui est un dossier que je connais bien, pour enfin, le retour d'expérience de cette catastrophe à maintes reprises à Nouvelle-Orléans, le vrai problème, c'est pas Katrina, c'est pas le passage du cyclone sur la Nouvelle-Orléans. Le vrai problème, c'est que les Américains ont construit, entre 1900, c'est-à-dire le passage du cyclone Camille, et aujourd'hui, ils ont construit sur la zone qui est classée comme inondable, et qui était classée comme étant une zone à risque majeur. Et donc, c'est le comportement aberrant, je dirais, de l'être humain qui est à l'origine de la catastrophe, pas tellement le cyclone. Alors, on va dire qu'on est dans une période où les cyclones ont tendance à être plus larges, plus grands, on parle d'intensité cyclonique plus forte, etc. C'est vrai, mais les climatologues connaissent bien ces cycles-là. Et on est dans le domaine de la normalité. Ce qui est anormal, c'est la concentration des populations sur ces zones-là. J'ajouterais que aussi, nous avons une surmédiatisation de ces événements, ce que nous ne connaissions pas il y a un demi-siècle. Il y a un demi-siècle, la planète entière n'était pas au courant de ce qui se passait au Myanmar, au Bangladesh, en Chine, en Inde. Alors, si vous relisez les écrits des grands voyageurs, ils ont tous vécu, ils ont tous eu des émotions avec des typhons, des cyclones qui étaient déjà extrêmement, extrêmement durs et extrêmement importants, quoi. Donc, je crois qu'il y a cette surmédiatisation qui est aussi très importante. Et dans nos sociétés, notamment occidentales, une aversion au risque qui renforce encore plus, si vous voulez, la vision victimaire que l'on peut avoir de ce genre d'événement.
D'accord, mais parlons de la réalité des faits. Donc, vous disiez que le sud de l'Asie, c'est une zone à risque pour les tempêtes. Est-ce qu'on peut dire, alors, que l'effet du cyclone au Myanmar n'a pas été aggravé par le fait qu'on a, par exemple, asséché les mangroves, ce sont des sortes de zones marécageuses, et on les a transformées en terres agricoles qui ne peuvent pas absorber les eaux et atténuer en quelque sorte l'impact du cyclone?
Oui, alors ça c'est une réalité qui est une réalité aussi bien dans le monde agraire que dans le monde urbain, puisque vous avez des inondations qui sont produites, par exemple dans nos sociétés occidentales, du fait de l'asphalte. On a bétonné, si vous voulez, nos rues, nos villes, etc. Et en effet, dès qu'il y a le passage d'un cyclone un petit peu intense, eh bien la nature n'est plus capable d'absorber naturellement, je veux dire, les effets dérivés. Mais quand même, je pense qu'il y a ce qui est de la responsabilité de l'homme, et puis il y a ce qui est quand même de la réalité d'une catastrophe naturelle. Quand vous êtes confronté à des typhons ou quand vous êtes confronté à des séismes et autres, vous êtes confronté quand même à des dimensions qui sont de l'ordre de l'imprévisible ou de l'ordre des limites de la connaissance telles qu'on peut les avoir en matière de prévention des risques.
Une dernière question sur ce qui s'est passé au Myanmar. Évidemment, on sait que la réponse de la junte militaire birmane a vraiment empiré la situation.
Oui.
Les militaires ont empêché la majorité, la plus grande partie de l'aide étrangère de parvenir aux sinistrés. Parlons un peu de l'avenir. En plus, il semble que c'était une zone risicole importante et que
oui.
les récoltes ont été dévastées. Donc, ça va prendre pas mal de temps avant que le pays se rétablisse de cet effet-là parce qu'il y a eu de l'eau salée qui a pénétré sur les terres
oui,
agricoles,
oui.
donc elles ne seront plus, désormais, elles ne pourront plus être cultivées pendant un certain temps.
Oui, oui, là, votre remarque est tout à fait judicieuse. Moi, ce que j'observe au travers des 30 ans de pratique que j'ai de ces situations-là, c'est que dans les pays les plus avancés, vous prenez par exemple le Japon avec le séisme de Kobe, hein, ou même par exemple les États-Unis avec Katrina, les pays qui ont vraiment quand même beaucoup de moyens, il en faut au minimum 10-15 ans pour s'en remettre, hein, pour se remettre d'un cataclysme naturel. Là, on est dans des régions où il va falloir beaucoup plus de temps. Et là, il faut s'attendre à avoir une région qui va être très impactée sur plusieurs décennies, hein. Au moins 20 à 25 ans pour pouvoir arriver à régler cette affaire-là. Or, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Et à mon avis, c'est une des grandes questions qu'il faudrait se poser derrière au niveau de l'impact de ces grandes catastrophes naturelles, c'est que soit vous avez des grands hubs vitaux comme la Nouvelle-Orléans, cinquième port mondial ou Kobe au Japon, etc., qui sont touchés, et là vous avez un impact énorme et considérable sur des économies qui sont très sensibles, ou soit ça touche des grands bassins agricoles ou des grands bassins de vie, ce qui est le cas par exemple sur la Chine et sur la Birmanie. Et vous pouvez avoir des impacts sur la chaîne alimentaire, parce que ce qui se passe, par exemple, sur le Myanmar, c'est extrêmement important sur, par exemple, toute la production du riz au niveau mondial, hein. C'est un des plus gros bassins, je dirais, de production risicole. Et là, il y a des conséquences qui sont très lourdes, hein. Et pour ça, on n'a pas de réponse adéquate. On est dans des cultures d'urgence et on n'a pas de vraie réflexion sur la gestion des sorties de crise. On les a même pas du tout sur des situations de type géostratégique ou géopolitique à la suite d'une guerre ou d'un conflit militaire ou autre, ou une guerre civile, et on les a encore moins sur des catastrophes naturelles. Et donc là, le problème qui se pose, c'est que vont devenir les populations, qu'est-ce qui va se passer sur les 10-20 ans qui viennent. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'ONU, qui a des principaux prestataires, ou les ONG, qui sont des principaux prestataires de ce genre de situation post-crise, sont devant des inflations de demandes, quoi, hein, des inflations de demandes. Vous prenez simplement le PAM, qui est le Programme Alimentaire Mondial, eh bien aujourd'hui, il n'investit plus sur la lutte contre la faim, et 80% de ses moyens sont destinés au secours des populations ou des victimes qui sont touchées par ces grandes catastrophes, qu'elles soient naturelles, voire même humaines aujourd'hui avec les guerres civiles.
Et donc, c'est dans cette direction qu'on se dirige, surtout une aide d'urgence, et on peut moins prendre de temps pour faire du véritable développement.
C'est une vraie question de fond. Moi, ce que j'enregistre au niveau international aujourd'hui, c'est compte tenu de la croissance démographique, de la localisation des populations, notamment sur ces zones à risque, des problèmes de gouvernance, et vous avez cité ce qui se passe en Birmanie, la France a envoyé un énorme bateau pour faire de l'assistance aux populations, elle ne peut pas le faire. Le bateau, il est au large pour l'instant et il ne peut pas faire, ne peut pas assumer sa mission parce que le gouvernement ne veut pas jouer le jeu, quoi, pour plein de raisons. Donc on est confronté à ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas confronté forcément à des logiques de développement, mais à des logiques d'assistance aux populations, de première réponse. Et derrière, nous sommes confrontés à une vraie réflexion sur notamment le problème de la sortie de crise, comment remettre les populations au travail. On l'a vu par exemple avec le tsunami en Asie du Sud-Est. Comment essayer de répondre aux besoins des populations et puis faire en sorte que ces délais que je vous évoquais de 20-25 ans, ben on arrive à les réduire et on arrive à faire en sorte que les gens puissent revivre normalement.
Eh bien, on va devoir s'arrêter ici. Monsieur Guillou, merci beaucoup de m'avoir accordé cette entrevue.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.